Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 38e numéro de L'écume des pages pour cette 4e émission consacrée à la rentrée littéraire 2018. Une fois n'est pas coutume, il sera encore question de bande dessinée aujourd'hui avec, depuis Paris, Pierre, Nicolas, Alice, Marie et Céline, et depuis Lyon, Myriam. Nos lecteurs et lectrices de Transistor vous parleront aujourd'hui de 4 bandes dessinées parues pour cette rentrée, La terreur des hauteurs de Jean-Claude Denis, chez Futuropolis, Le chemisier de Bastien Vivès chez Casterman, L'ogre amoureux de Nicolas Dumonteuil chez Futuropolis également, et enfin Amour, djihad et RTT de Marc Dubuisson paru aux éditions Delcourt. Entrons tout de suite dans le vif du sujet par une sensation de vertige avec La terreur des hauteurs de Jean-Claude Denis paru chez Futuropolis, et c'est Pierre qui nous en parle.
Alors, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de Jean-Claude Denis avec sa compagne qui marche sur le chemin des douaniers dans le sud de la France. Et en fait, il se rend compte que ce chemin est assez étroit, sinueux et surtout tombe à pic dans la mer. Et c'est là que se réveille son vertige. Et du coup, toute la bande dessinée explore différentes thématiques autour de ce vertige, puisqu'il en parle à sa compagne tout le long de cette déambulation. Et du coup, il revient en arrière sur sa propre vie pour essayer de trouver d'où vient ce vertige, comment ce vertige s'est exprimé dans les différents événements qui ont marqué sa vie. Et du coup, on a son parcours personnel qui se trace petit à petit. Ce parcours personnel d'abord en tant que jeune adulte ou même adolescent, voire même enfant, pour aller vraiment aux racines de son vertige. Et petit à petit, ça se développe et on commence à voir le dessinateur qui, du coup, raconte sa vie de dessinateur en même temps que ses rencontres avec le vertige. Du coup, c'est une bande dessinée qui est très intéressante puisque, mine de rien, le rythme est vraiment bien façonné. On déambule vraiment avec lui, on suit son histoire comme s'il nous racontait et même des fois, c'est assez amusant puisque le long de la déambulation, on se rend compte qu'ils avancent vraiment, que ça prend du temps, que c'est vraiment presque toute une matinée, voire une journée. Et nous, quand on lit la BD, on est happé par le récit et on se rend pas compte de toute cette longueur, alors qu'en fait, ça fait quand même de nombreuses pages qu'on est là à lire, qui nous raconte ses vacances à la plage lorsqu'il était jeune adulte avec des amis étrangers. Et du coup, en même temps, on a aussi ce côté où c'est le dessinateur qui, du coup, rencontre d'autres dessinateurs, des non-célèbres, qui même, à un moment, exprime son admiration pour un autre dessinateur et parle de son style. Alors, je m'en souviens plus exactement qui c'est, mais c'est un style... c'est un dessinateur de bande dessinée de science-fiction des années 70-80, donc un grand nom de la bande dessinée française. Et du coup, c'est une nouvelle manière de voir le vertige, non pas comme peur, mais comme force créatrice. Et du coup, ça nous amène sur la fin de la bande dessinée, où justement, c'est là que toute cette peur, ce vertige qui s'est exprimé tout du long de la bande dessinée, se retrouve cristallisé autour de la question de faire une bande dessinée. Et c'est là qu'on retrouve l'idée de faire une bande dessinée sur sa propre vie, faire une bande dessinée sur soi-même, puisque les dernières pages sont consacrées à la réflexion de Jean-Claude Denis avec sa compagne chez eux cette fois-ci, justement, alors qu'il est en train d'écrire la BD qu'on vient juste de lire. Alors c'était « La terreur des hauteurs » de Jean-Claude Denis, publié aux éditions Futuropolis.
Merci pour cette présentation, et nous passons maintenant au chemisier de Bastien Vivès, paru chez Casterman, et c'est Nicolas, Céline, Marie et Alice qui l'ont lu pour vous.
Le chemisier de Bastien Vivès aux éditions Casterman est une BD peu colorée, hein, presque en noir et blanc, mais au personnage principal haut en couleur, ou en tout cas après un certain événement. Donc Séverine est une jeune étudiante en lettres modernes, elle prépare l'agrégation, big up au public agrégatif de Transistor. Elle vit à Paris avec son copain et est relativement réservée. Mais tout change le soir d'un babysitting où elle garde une petite fille qui est malade et tache son shirt. Le père, gêné, propose à Séverine de prendre un chemisier à sa femme, de l'emprunter. Et ce fameux chemisier qui donne son nom à la BD, ce chemisier va changer la vie de Séverine et lui conférer un aplomb qui attire tous les regards et toutes les attentions, en particulier de la gente masculine. J'ai personnellement été happé par ce chemisier que je vois personnellement comme un objet magique dans un récit fantastique. On va en discuter tout de suite avec les autres personnes qui ont lu cette bande dessinée. Mais en attendant, si vous voulez découvrir la vie de Séverine avant et après la découverte du chemisier, c'est de Bastien Vivès chez Casterman. Alors, vous, qu'avez-vous pensé, un avis général? Je crois que vous êtes à peu près unanime contre moi sur le chemisier de Vivès.
Non, mais moi, je vois ce que ton interprétation, elle a dû être très agréable dans la lecture. J'aurais bien aimé voir un objet magique dans ce chemisier. Moi, j'ai juste vu une sorte de tentative d'embourgeoisement un peu étrange et qui, du coup, conférait une assurance à l'héroïne. Et qui surtout met en avant sa poitrine, qui du coup, d'un coup, elle est visible pour que des personnages masculins, parce qu'elle est quand même la seule personnage féminine, il me semble.
À part justement la femme.
À part la femme.
Enfin, la mère de la petite
exactement,
fille.
Exactement, à part la propriétaire initiale du chimisier.
Qui, à mon avis, a une importance.
Et la mère de Séverine aussi. Ouais.
Et aussi, oui, évidemment, la mère de Séverine, oui.
Et la sœur, même, peut-être. Mais bon, c'est des personnages qu'on voit deux cases.
Enfin, oui, c'est clairement des personnages secondaires, oui.
Alors que les autres personnages masculins sont quand même bien présents.
Bien sûr.
Ils sont omniprésents, même.
Et en fait, Séverine est définie que par leur regard. Et rien que de ce point de vue-là, c'est un peu gênant. Et en plus, c'est une BD où j'ai l'impression que c'est une collection de fantasmes pas très originaux. Enfin, très cliché même. Et donc, moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Après, Bastien Vivès, j'aime beaucoup son dessin. Je trouve ça très beau. Mais l'histoire est assez plate. Voilà.
Oui. Et vous, Marie, Pierre, vous partagez...
Moi, je suis un peu troublée parce que j'ai du mal à admettre...
Je suis troublée parce que j'ai lu.
Non, je suis troublée parce que j'ai du mal à admettre qu'il ait vraiment fait cette histoire cliché au premier degré, voilà. Avec toutes ces situations. Donc, je ne sais pas trop...
Je n'arrive pas à trouver le deuxième sens.
Je ne sais pas si c'est là... Alors, Nicolas a un troisième sens.
Mais non, je pense que c'est ça, le deuxième sens. C'est-à-dire pour... Vas-y.
Non, moi, je ne sais pas si c'est... Ou alors, si c'est pour mettre en évidence... Des structures, des schémas sexistes ou qui peuvent aussi interroger des désirs, que ce soit masculin ou féminin. Et dans ce sens-là, c'est aussi quelque chose qui... Enfin, je pense que ça interroge quand même les désirs, même si c'est dans le cliché. Ça interroge justement nos représentations, nos fantasmes, même si ça reste un peu lourd. Ça aurait pu... voilà. Mais je suis troublée, j'arrive pas à savoir exactement. Mais moi, je pense effectivement, comme Nicolas va nous le dire, qu'il y a quand même quelque chose avec cet objet qui n'est... Pour moi, c'est pas de l'ordre de l'embourgeoisement, comme tu dis, Alice.
Non, mais c'est un peu rapide.
C'est
mais
ce que
parce
tu as
que
vu, en fait,
c'est
à
au
la
début
première
ce que
lecture,
j'ai vu, voilà. Et en fait, aussi, j'ai du mal à... Enfin, il y a une BD précédente de Bastien Vivès qui porte sur la vie de couple, et où il est très habile à montrer ça. À montrer que... c'est que des faux dits, des faux semblants, que...
une routine qui a perdu
voilà,
son sens.
Et quoi. Avoir un regard sur le cliché, qui se sert du cliché pour le démontrer. Donc je sais, sachant qu'il sait le faire,
il aurait pu mieux le faire.
Je me suis dit qu'il ne l'avait pas fait dans le chemisier.
D'accord.
Volontairement.
Voilà, alors moi, Pierre, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce que ça se recoupe un petit peu?
Ça se recoupe un petit peu. En fait, c'est difficile de vraiment savoir quoi en penser après. Genre, après la lecture, c'est à mi-chemin entre... c'est bien rythmé, les dessins sont beaux, mais en même temps, les personnages sont plats, c'est des
voilà,
coquilles
c'est
vides
ça.
À chaque fois.
Il se manque, et voilà, et mais ça, je suis complètement d'accord. Et
sauf que pour moi, c'est juste une accumulation de clichés, et il y en a trop, en fait. Ça se suit trop rapidement, et ça n'a pas le temps, il n'y en a pas un seul qui a le temps de vraiment accrocher, sauf l'histoire de couple, parce qu'elle met du temps, elle reste longtemps, etc. Et après, c'est pour qu'elle vole en éclats, il reste plus que des clichés, et ils vont tellement vite, ils sont tellement, on va dire, peu crédibles, parce que ça fait vraiment style fantasme, etc., qu'on ne peut pas s'accrocher, on n'arrive pas à s'accrocher à un personnage ou un autre. Sachant que Séverine change au gré de ses clichés, et ça fait qu'on est un peu perdu à la lecture, puisqu'on n'a pas grand-chose auquel se raccrocher, à part cette accumulation de clichés qui sont quand même vachement violents envers les hommes et les regards masculins.
Donc voilà, moi j'ai une interprétation à proposer qui peut rajouter, on va dire, un sens à cette histoire, mais bon, je suis assez d'accord avec vous directement à la lecture, voilà. Moi, dès le début, en fait, très vite, j'ai vu un parallèle avec une nouvelle de Buzzati extrêmement connue, qui est celle du veston, où on a à nouveau un objet vestimentaire magique qui va influer. Moi, j'ai vraiment vu le chemisier comme un objet magique, c'est-à-dire quelque chose qui joue à la fois de Séverine et des autres personnages, d'où leur état de coquille vide. En fait, ils ne font rien, ils sont juste joués, on va dire, par le chemisier. Le chemisier, donc, qui donne vraiment une aura presque magique à Séverine et qui va attirer les regards, lui conférer la réussite dans tous les domaines pratiquement. Et tout ce que vous avez dit sur ces images fantasmées du désir, etc., moi j'ai vu ça exactement comme le parallèle avec le veston de Buzzati qui donne de l'argent à son propriétaire. Et bien là, dans notre société de 2018, peut-être ce chemisier, au lieu de donner de l'argent, il donne voilà, une façon d'être désiré, une façon d'être aimé, une façon d'être vu par tous dans notre société actuelle. Moi, enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu.
C'est très genré. Elle est vue que par des hommes.
Oui, d'accord. Ça, faut se poser la question. Est-ce que ça dit quelque chose sur l'auteur? Est-ce que ça dit quelque chose sur Séverine? Est-ce que ça dit quelque chose sur le chemisier lui-même? Mais voilà, mais par exemple, sur ce côté extrêmement genré, avec des scènes parfois, enfin, à la limite de l'agression sexuelle, à chaque fois, il y a quand même une retenue des personnes qui vont agresser Séverine, qui vont accepter son refus, qui vont s'arrêter avant, et en général s'arrêter avant de faire du mal au chemisier. Par exemple, quand il y a des scènes qui tournent un peu à la violence où le chemisier manque d'être déchiré, c'est à ce moment-là que Séverine fait arrêter l'action, ou bien que la personne abandonne, etc.
Oui, parce qu'elle ne veut pas perdre l'aura du chemisier.
Exactement, mais alors voilà, ça peut se voir.
Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose avec ce chemisier aussi. Oui. Qui, je ne sais pas si c'est d'ordre magique ou fantastique, mais il y a quand même... Elle s'accroche à cet objet comme un fétiche, d'une certaine façon. Elle se rend compte que le pouvoir aussi... que ce qu'il crée, ça vient du chemisier, pardon. Mais du coup, ce qui est assez troublant aussi, c'est ça, c'est, tu disais, on est en 2018, donc quand même dans une... et ça fait un an qu'il se passe beaucoup de choses autour de la parole de la femme, etc. Et donc, on a ce personnage qui a conscience du pouvoir de ce chemisier, qui est quand même une personne qui fait des études, etc. Et elle est quand même... Elle est très troublante sur l'utilisation qu'elle fait de cet objet, parce qu'on sent bien que c'est très nouveau pour elle. Et peut-être que d'une certaine manière, elle aurait pu être contre cette idée du corps de la femme complètement objectivée, etc. Mais là, elle a une façon de réagir qui nous trouble aussi en tant que lecteur, parce qu'elle se laisse aussi charmer par l'objet du chemisier, par l'effet qu'il a. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a... En lisant, on est à la fois fascinée et rebutée. On se dit, mais elle ne peut pas se servir de ses charmes à ce point, elle est contente. Et elle aussi, on sent qu'elle est ambivalente sur ce point. Et du coup, je me demande, je pense que ça pose quand même des questions intéressantes sous le cliché. Enfin, j'imagine, parce que pour moi, on l'a déjà dit, mais il y a tellement de clichés que ça peut pas être que du cliché premier degré, je crois pas.
Voilà. Bon, alors voilà, ça c'est la défense de l'auteur à qui on donne le bénéfice du doute. Pierre, tu veux dire quelque chose peut-être?
Ce chemisier, je le vois vraiment pas comme quelque chose de magique.
Bah moi, deux trucs principaux qui m'ont, on va dire, conforté dans mon idée qu'il était magique. C'est cette histoire de boutique. Ils viennent de fermer. Et ça, c'est exactement, il y a la même chose dans Buzzati, c'est tout pareil. C'est comme, cette boutique magique qui apparaît, qui donne le chemisier ou le veston et qui redisparaît. Ça, et aussi, je pense personnellement que la mère de la petite fille, celle à qui appartient au départ le chemisier, je pense qu'elle est de la même façon sous l'emprise du chemisier au début, avant que Séverine ne prenne le chemisier, et que c'est à cause de ça qu'il y a la rupture entre les parents de la petite fille.
Là tu vas un peu loin, Nicolas.
Moi, ça m'a paru, le parallèle m'a paru évident en le lisant, mais c'est parce que j'avais déjà le veston en tête, je pense. Ça m'a beaucoup influencé.
Je vois parfaitement ce que tu veux dire, et oui, en effet, ça s'explique parfaitement à la lecture, mais... Bah pour moi, ça n'a pas du tout eu cet effet. Pour moi, le chemisier, ça a fait un déclic chez elle. Et du coup, j'ai juste vu une personne tester ses propres limites, mais beaucoup
de manière
trop.
Cliché.
Et c'est pas juste ça, c'est aussi... Elle les teste de manière tellement rapide, tellement à fond, que ça a plus l'effet repoussoir que vraiment on va rentrer dans l'aventure avec elle, en fait. Oui. Elle fait tout trop vite, tellement trop loin.
Avec peut-être un peu trop de scènes d'un coup. Ouais, des scènes peut-être trop crues. Oui, bah
c'est pas la cruauté
des scènes pour Sébastien Vivès, c'est capable de pire, on va dire. Je sais pas si vous avez eu dans les mains Petit Paul, hein, qui est sorti en même temps, enfin il y a pas longtemps, du même auteur.
Ben on laissera les auditeurs de Transistor rechercher Petit Paul. Le mot de la fin, Pierre.
Oui, si je puis juste me permettre, parce que on est dans les clichés, on a beaucoup parlé des clichés de la sexualité des hommes, etc., mais il y a quand même un truc, c'est inadmissible le cliché qu'il a des joueurs de plateau et aussi des gens qui regardent des séries à longueur de soirée. Franchement,
exactement, c'est pas très sympathique. Exactement, une BD anti-geek, donc signée Bastien Vivès, aux éditions Casterman, si vous voulez voir un chemisier magique ou non mettre des personnages sous sa coupe. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. De l'amour.
Laissons maintenant place à l'amour et à l'absurde avec L'ogre amoureux de Nicolas Dumonteuil, paru aux éditions Futuropolis. C'est Nicolas et Céline qui nous en parlent depuis Paris, puis nous aurons une poursuite de lecture avec Myriam depuis Lyon.
Alors, L'ogre amoureux, c'est une BD déjantée de Nicolas Dumonteuil aux éditions Futuropolis. On y suit un renard pas hyper malin, hein, malgré le fait que ce soit un renard, qui, au lieu de se faire manger par l'ogre Barbac, se fait engager par ce dernier pour lui servir de cerveau et lui trouver une fiancée. Car Barbac est bête comme ses pieds sont absolument dénués de toute forme d'intelligence. L'ogre demande « Sais-tu pourquoi je suis heureux au moins, toi qui es si malin ? Demain, je me marie. » Après quelques cases de discussion, « Sais-tu avec qui ? Qui est l'heureux élu ? Non, votre grandeur. Tu ne sais pas ? Allons, dis-le-moi. Tu dois bien avoir une idée, ne me fais pas languir. Je ne vois vraiment pas, votre honneur. » Et l'ogre se met à hurler « Dis-moi qui c'est, sinon à quoi tu sers? Ne me dis pas que je me suis trompé sur ton compte. Qui est-elle? Comment est-elle ?» Donc on se rend compte qu'en fait, l'ogre ne sait absolument pas qui est sa fiancée, mais qui veut quand même se marier avec elle le lendemain. Donc dans cette BD, Barbac fait sniff-sniff pour repérer les autres personnages à des kilomètres. Il fait gloop pour avaler les gens qu'il a envie de manger, avec bien sûr les pieds encore sortant de sa bouche. Bref, ça donne le ton de cette BD. Barbac est heureux en page 27 et tue des gens en page 28. On voit des animaux, des taxidermistes, une ville surélevée qui est protégée d'une inondation. L'histoire n'a absolument ni queue ni tête, mais elle est vraiment hilarante. Donc pour la définition du loufoque, mais dans le bon sens du terme, vous pouvez lire L'ogre amoureux de Nicolas Dumonteuil aux éditions Futuropolis.
J'ajouterais même que en fait, l'ogre tue des gens parce qu'il est heureux.
Ah oui, c'est vrai.
Les deux vont de pair, voilà, hein, les deux ne sont pas dissociés.
Je pense qu'il tue les gens quel que soit son état, en fait, c'est dans sa nature.
Effectivement, moi j'ai adoré ce personnage de l'ogre qui est absolument terrifiant parce qu'effectivement on peut passer d'une situation où il dialogue tout à fait normalement avec le renard et dans la case d'après il est en train d'engloutir une personne qui, innocente qui passait par là. Il est aussi très très bête, ça tu l'as souligné, mais en même temps il est extrêmement drôle parce que c'est des situations qui créent ça et parce que finalement d'un air un peu moins innocent que l'apparence le montrerait, ben en fait il pose des questions qui aussi nous font réfléchir et qui par elles-mêmes sont très drôles. Moi, j'ajouterais effectivement que en fait tous les petits personnages comme ça de ces espèces de fabliaux sont très bien dessinés, pas forcément au sens voilà du dessin eux-mêmes, mais vraiment chacun a ses caractéristiques. On rencontre donc non seulement Renard, mais au départ il fait en fait un duo avec un pauvre ours.
Oui, c'est ça.
Pas très débrouillard. Et voilà, moi, j'ai vraiment adoré cet aspect de fable, en fait, qui emprunte un plein de traditions, notamment en BD. Moi, je pense à la vieille bande dessinée Sylvain et Sylvette, où en gros... Alors, manifestement, je suis un peu la seule à connaître.
Voilà, c'est ma référence culturelle personnelle.
C'est très vieux, mais on a là encore des animaux qui discutent entre eux, qui sont pas très malins, qui se font avoir par les humains. Et moi, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Le dessin est très différent, mais dans l'histoire, dans l'esprit, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi.
Oui, donc c'est vrai, oui, c'est vrai que ça fait des espèces de fables avec tous ces animaux, mais... Alors, je sais pas, petit toi, ça t'a fait réfléchir à des choses. Moi, j'ai pas eu l'impression de beaucoup réfléchir. J'ai trouvé que c'était justement un peu des fables détournées, dans le sens où tous les personnages sont stupides et font des bêtises, et il n'y a pas vraiment de morale à la fin.
Peut-être, mais quand même, au fil des cases, au fil du récit et de la bande dessinée, en fait, on voit un petit fil rouge se dessiner, notamment quand on est chez le taxidermiste et qu'on a tous ces animaux empaillés. Il y a aussi, et ça on le retrouve plus tard, il y a aussi le buste d'une femme absolument magnifique qui n'a plus ses bras. En fait, ça représente évidemment dans l'histoire collective, c'est la Vénus de Milo. Enfin voilà, on voit bien à quoi ça fait. Enfin moi, ça me fait penser à ça.
Okay.
J'ai vu ça et il y a vraiment un jeu quand même sur l'apparence physique, les femmes plus ou moins belles, plus ou moins appétissantes qu'on présente. Et ce buste, je crois qu'il revient plusieurs fois. Je crois l'avoir vu au moins 3 fois à différents endroits de la bande dessinée. Et voilà, c'est très discret, mais à chaque fois, le renard qui est mis devant notamment cette statue chez les taxidermistes pose un regard totalement perplexe en ayant l'air de se demander finalement, c'est ça la beauté? Est-ce que c'est le genre de femme que je dois trouver pour l'ogre? Et la question va se poser d'autant plus une fois qu'ils arrivent en ville et que l'ogre, là, se met réellement à la recherche d'une potentielle femme pour lui. Et qui va les poursuivre en les reniflant et en étant aussi poursuivi par elle, mais je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher la fin, qui est encore une fois mais totalement inattendue. Moi, je me suis laissée porter, on passe d'une situation à une autre, et comme tu l'as bien dit, c'est sans queue ni tête, mais c'est vraiment jouissif par ça. C'est complètement imaginatif, très imaginaire, les dessins sont très beaux. Je pense notamment aux situations où il y a l'inondation.
Oui, ça c'est vraiment beau.
C'est quand même c'est très bien dessiné.
Avec tous les véhicules qui flottent un
exactement
peu partout.
Donc voilà.
L'inondation qui a aussi des proportions totalement ridicules, puisque bien tous sûr les arbres sont sous l'eau. Enfin, on ne sait pas combien de milliards de mètres cubes d'eau il y a sur cette campagne.
Mm-hmm. Voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette bande dessinée. Effectivement, comme tu l'as dit, on n'a pas l'impression de réfléchir en lisant, on a plutôt l'impression d'être...
J'ai passé un très bon moment
lire,
mais je trouve justement que voilà, ça déforme l'idée de la fable qui est censée être une... Enfin, voilà, comme tu dis,
voilà,
toi, il y a quelque chose...
Et en même temps, j'ai senti
quelque pas remarqué chose. J'ai pas remarqué ce mannequin qu'on revoyait, je l'ai remarqué seulement chez les taxidermistes. Et voilà, bon... Je l'ai vu comme juste... voilà, les taxidermistes ne font pas la différence entre les humains et les animaux. Ils sont juste stupides comme les autres. Quoi.
Alors après, t'as encore... Mais à la fin, il y a cette réception chez le maire de la ville ou la personne qui dirige la ville et qui regarde l'inondation en contrebas. On a en fait finalement une réception où les invités doivent venir masquer. Il y a encore cette idée de l'apparence, du masque,
oui,
de
oui,
qui êtes-vous.
C'est tout.
On dit au renard, vous êtes déguisé en renard, vous êtes fabuleux, alors que c'est lui. Pareil pour l'ogre de Barba, qui a un style... Alors, lui, il est inimitable. Enfin, il est très grand, toujours noir. À un moment, on voit sa mère, c'est son portrait caché en femme. C'est atroce.
C'est horrible.
Et voilà. Et en fait, voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion quand même autour de... Enfin, en tout cas, quelque chose autour de l'idée des apparences et du masque. Qui constitue un fil, mais là encore, je saurais pas trop tirer d'enseignement quand même de la fable, parce que comme tu le dis, elle est tellement sans queue ni tête que c'est très difficile à la fin. On est un petit peu pris de court et pantois devant la conclusion. Je pense que c'est, pour le coup, c'est très réussi parce qu'en plus, c'est pas didactique. Enfin, ça évite l'écueil du didactisme un petit peu sec et un petit peu facile. Donc voilà. Et je rappellerai que la bande dessinée, donc L'ogre amoureux de Nicolas Dumonteil, a paru chez Futuropolis.
Après avoir entendu Nicolas et Céline nous parler de L'ogre amoureux, petit détour par Lyon pour savoir ce que Myriam en a pensé.
Ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est surtout que c'est le renard qui permet de construire en fait l'intrigue avec son ami ours, qui décède bien vite. Vous le saurez, c'est vraiment dans on va dire les 10 premières pages, donc je ne vous gâcherai vraiment rien. D'ailleurs, c'est moins l'intrigue que les tentatives d'échapper à l'ogre du renard, qui sont vraiment intéressantes ici. C'est vraiment un travail sur le gag, parce que le dessin, en fait, est plutôt classique pour une bande dessinée. Certes, sur certains détails, il est assez précis. Par exemple, sur les nuages, ils sont assez vraisemblables. Mais vraiment, en fait, on a l'impression, en fait, de retomber un peu dans les bandes dessinées d'enfance, mais avec un côté totalement, on va dire, un peu Happy Tree Friends, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, où finalement l'ogre mange un peu tout ce qu'il trouve, et c'est pas vraiment, et c'est à la fois le méchant et le héros. C'est peut-être ça qui est assez intéressant dans cette bande dessinée. Moi, je l'ai trouvé très drôle, mais je pense, c'est vrai qu'à certains moments, je pense que c'est énormément de choses en même temps dans une seule œuvre. C'est très concentré en gags, en personnages. Et en lieux. Et c'est vraiment cet aspect-là, peut-être, qui peut rebuter certains lecteurs, mais qui en même temps, si on prend la peine d'entrer dans ce monde totalement loufoque où renards et humains parlent ensemble, où il y a des ogres qui mangent en une seule bouchée des gens, et où on peut, on va dire, évoluer dans l'eau tranquillement, je pense que vraiment on peut vraiment rentrer dans le monde de cet ogre amoureux qui finalement, on verra à la fin. On va dire est mitigé dans sa quête, on va dire, d'une épouse. Et c'est vraiment pas... je pense que généralement, ce type de bande dessinée, ça passe ou ça casse. Soit on aime beaucoup, ce qui est plutôt mon cas, même si je l'ai pas lu qu'en une seule fois. Je l'ai lu en plusieurs fois, quoi. Et pour d'autres, ça va juste pas le faire, quoi. Je pense que c'est ça.
Merci, et enfin pour finir cette émission, Amour, djihad et RTT de Marc Dubuisson, c'est paru aux éditions Delcourt. Nicolas et Pierre nous disent ce qu'ils en ont pensé.
Bonjour à tous, alors là nous allons vous présenter Amour, djihad et RTT de Marc Dubuisson. Alors Marc Dubuisson est un dessinateur de BD belge, un liégeois comme le café, qui nous a pondu Amour, djihad et RTT fin septembre, une bande dessinée à l'humour cinglant qui se passe dans la régie départementale où un Kowalski, un employé qui s'ennuie à en mourir presque, décide de rejoindre le djihad et met tout sens dessus dessous. Alors du coup, Marc Dubuisson est un habitué des petits strips qui sont publiés dans un journal belge, plein d'humour très cinglant, sachant que son dessin en fait est assez épuré avec, en fait c'est des stickmen quasiment ces personnages, avec des têtes bien à eux, qui rajoutent aussi à l'humour, par exemple le partenaire de Kowalski qui a une tronche de déterré à longueur de BD. Et du coup, c'est une BD fort amusante qui raconte toutes les péripéties de ce cher Kowalski qui petit à petit découvre le djihad avec toute son incompétence et qui fait face à l'administration publique ainsi qu'à l'armée dans des situations de plus en plus rocambolesques. Et on découvre aussi petit à petit la vie de ses collègues sur les autres étages du service départemental. Alors, personnellement, j'aime beaucoup Marc Dubuisson. Je suis avec grand plaisir ces strips qui critiquent de manière assez acide l'actualité politique et mondiale. Et du coup, je suivais petit à petit quelques strips de Amour Djihad et RTT qu'il publiait en avance, en amont de la publication, histoire de mettre l'eau à la bouche. Et il s'avère qu'en fait, je ne suis pas déçu du tout. Bien qu'il y a un grand changement en fait entre lire quelques strips de temps en temps, qui sont généralement des strips les meilleurs, quoi, vraiment les plus drôles, et se retrouver avec une histoire complète racontée en strip qui des fois peut avoir des longueurs, surtout avec l'arrivée de différents personnages ou des histoires parallèles qui s'accumulent, bien que certaines au début donnent une vraie respiration à l'intrigue principale, qui, il est vrai, perd un peu de son souffle au bout d'un moment, puisque certes, c'est extrêmement drôle de voir Kowalski se tromper totalement et mal interpréter absolument tout, avec un boss qui est un boss caricatural à souhait.
Oui.
Du coup, voilà, j'ai particulièrement aimé, mais il me semble que l'attente était beaucoup trop élevée par rapport au résultat final.
D'accord, alors moi, je n'avais pas du tout d'attente, je ne connais pas très bien Marc Dubuisson. J'avais déjà vu en effet les petites têtes de ces personnages quelque part, puisqu'on les reconnaît. Et moi, c'est aussi ça beaucoup qui m'a fait rire, hein, c'est les têtes des personnages, elles sont à mourir de rire. Comme toi, j'ai des. Enfin, alors, je sais pas si je pourrais parler de longueur, mais c'est vrai qu'il y a certains ressorts comiques qui étaient, on va dire, parallèles à l'intrigue, qui m'ont fait rire un petit peu, mais après coup, je me suis dit, ah oui, c'est quand même rude comme humour, c'est quand même rire sur des trucs pas drôles. Alors, le cœur du bouquin, évidemment, c'est vraiment tourner en ridicule le djihadisme. En fait, c'est même pas du djihadisme. C'est juste de l'ennui d'un fonctionnaire qui trouve un moyen de se faire connaître, on va dire. Mais à côté, on voit des problèmes graves, je veux dire. Alors, j'avais pas... Je vais dire en entreprise, mais c'est pareil, en entreprise, dans le service public, c'est le sexisme,
le racisme, l'islamophobie.
Oui, c'est pas ça que je pensais. Oui, donc voilà, sexisme, racisme, islamophobie, le fait d'être exploité, quoi. Un employé qui revient d'un burn-out et qui se suicide deux strips plus loin. C'est quand même hardcore.
Il suffit de voir le premier strip. Voilà. Ça ouvre sur un strip particulièrement amer, mais voilà. On ne peut pas s'empêcher d'en rire.
Et voilà, et du coup, toute la partie, tout ce qui est autour de Kowalski, c'est vraiment drôle parce que c'est léger finalement. Il a une ceinture d'explosifs, en fait, c'est des jouets. Il parle du djihad sans savoir qui d'Allah ou de Mohamed est le prophète et lequel est le dieu.
Il s'inspire de la page Wikipédia du terrorisme.
Voilà, tout ça, c'est drôle parce que c'est léger. Et puis juste à côté, il y a des blagues qui sont drôles, mais c'est de l'humour très très jaune autour, voilà, comme ça, du sexisme, de l'islamophobie. Une blague sur de la pédophilie quand même, et du coup je trouve que c'est intéressant de mêler un peu des vraies réflexions à l'humour, mais ça peut-être ça alourdit un peu
la BD. Exactement, ça, je trouve que ça marche beaucoup mieux quand on les voit paraître une par une par semaine. Ça fait vraiment, voilà, un strip dans un journal qui va vraiment critiquer quelque chose d'actualité mais par l'humour. Alors que lorsque c'est dans une BD, lorsque c'est vraiment, ça fait partie d'une intrigue, ça noie un petit peu tout ça et ça fait ressortir le fait que c'est des sujets qui sont vraiment lourds, quoi. Donc quand il n'y en a qu'un seul, ça peut, voilà, ça fait rigoler, mais à force on se rend compte, voilà, mine de rien, c'est pas si drôle que ça, ces sujets.
Voilà. Donc, en conclusion, faut pas travailler dans l'administration départementale 8e étage un vendredi.
Voilà. D'ailleurs, Marc Dubuisson travaillait pour le ministère de l'Intérieur en écrivant cette BD.
D'accord, et bien ça nous dit des choses sur le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et donc c'est Amour, Djihad et RTT de Marc Dubuisson aux éditions Patakès.
C'est la fin de ce 38e numéro de L'écume des pages, merci de nous avoir écoutés. Merci également à nos lecteurs et lectrices du jour, Pierre Lemuel, Nicolas Auvray, Alice Bocara, Marie Blanc, Céline Autin et Myriam Mellouli. Nous n'avons pas encore épuisé notre stock d'ouvrages de la rentrée et revenons donc pour votre plus grand bonheur, je l'espère, avec un nouveau numéro de L'écume des pages dès la semaine prochaine. À très vite !